Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce temps de l'Avent est très providentiel pour nous, en France, plus particulièrement en Occident. Car, bien sûr, nous vivons le froid, l'absence de lumière qui nous fait, paraît-il, les dépressions de l'hiver et qui suscite même des luminothérapies. Et providentiellement, ce temps de la préparation de Noël fait paraître des lumières dans les villes de France à Paris pour traverser ce froid, cette obscurité. Mais ce temps de l'Avent pour les chrétiens, lui, il signifie justement c'est la persévérance dans l'espérance, car il y a un mélange entre l'anniversaire de la naissance de Jésus et le souhait, l'attente de la seconde venue de Jésus à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle, alors même que l'année liturgique s'est terminée sur l'évangile de la fin des temps, de l'arrivée du Christ, du second avènement du Christ, eh bien, il y a cette volonté même, dans le premier dimanche de l'année, de répéter cet évangile et de nous demander cette fois-ci une espérance particulière. En quelque sorte, dans le carême, l'appel à la conversion et à la pénitence est fait aux baptisés, à ceux qui croient en l'amour d'un Dieu qui s'est fait homme, né d'une femme, la Vierge Marie. Mais le temps du carême est bien plus précis. Il appelle à la conversion au nom de cette prédication par la croix de l'agneau de Dieu. Et la semaine sainte est le cœur même, le but même de ce carême où aboutissent tous nos efforts dans la grâce pour s'unir au sacrifice de la croix. Ainsi donc, à la fin de la semaine sainte, nous sommes dans la joie de Pâques et de la victoire de Jésus sur la maladie, la mort et le péché surtout. Mais dans le temps de l'Avent, en quelque sorte, nous savons déjà tout cela. L'année liturgique est passée et bien qu'elle recommence et que nous nous dirigeons vers la nuit de Noël et de l'innocence et de la faiblesse de l'enfant Jésus, la preuve de l'amour du Père, la preuve de l'amour de Dieu dans l'incarnation, qui aime tellement la nature humaine qu'il s'unit à elle, eh bien, ce temps de l'Avent, vous le comprendrez, est un appel universel à la conversion. Et il y a une aspiration particulière à suivre la volonté de Dieu, du salut, du bonheur. Non pas que ce ne soit pas au nom de la croix que nous appelons tous les hommes de tous les pays, de toutes les religions inventées par les hommes, de toutes les cultures, à se tourner vers Dieu. C'est aussi, bien sûr, au nom de la croix, mais c'est aussi au nom de cette venue de Dieu. On avertit le monde que le Christ va revenir comme il est déjà venu. Il y a un mélange entre la première venue et la seconde venue du Christ. Cette seconde venue va terminer l'histoire terrestre. Et il y a une véritable joie cachée, malgré la disparition de la prière du Gloria, il y a toujours l'Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué parce qu'il va venir. Et il va venir, mais pour nous apporter la paix, pour nous libérer, finalement, parce que même lorsque nous avons cette grâce extraordinaire du baptême, cette Sainte Trinité qui habite en nos cœurs, même si nous sommes consolés de nos épreuves, de nos deuils, de nos souffrances, en voyant Dieu souffrir sur la croix, nous souhaitons la vie glorieuse, nous souhaitons une vie paisible, nous souhaitons une récompense de ce désir d'aimer et de regretter le mal, et de se porter vers la paix et vers la promesse de Dieu d'une vie éternelle, où il n'y aura plus de querelles, où il n'y aura plus de cette faiblesse, de cette sensualité très contemporaine, mais qui a toujours existé, mais qui, de nos jours, va jusqu'aux enfants qui sont exposés à la pornographie sur Internet, ou qui sont bousculés par les adultes dans une éducation sexuelle dès la maternelle ou la primaire. Qu'on ne puisse pas vivre en paix, que nous ne puissions pas vivre les uns avec les autres avec justice, avec bonté, sans toujours se jalouser, sans toujours se désirer de manière fausse. Oui, nous espérons que les vrais moments sur cette terre d'amour, de bienveillance, d'indulgence soient enfin perpétuels, que nous puissions retrouver ce que nous avons connu dans l'amour, mais aussi, si nous avons vraiment le sens de la volonté de Dieu, de retrouver des ennemis changés, purifiés, ayant regretté leurs péchés et étant morts dans la grâce, sans que nous l'ayons su, alors même que nous avions la légitime défense de nous écarter d'eux, parce qu'ils nous auront fait du mal, ils nous auront insultés ou calomniés, blessés. Mais quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est le bonheur. La volonté de Dieu, c'est la paix. Ce n'est pas que nous soyons toujours exercés dans cette vie terrestre, dans un combat spirituel et un combat de vertu. À un moment donné, nous aurons, j'espère, la joie d'exercer notre nature, notre intelligence, notre volonté, sans avoir de tentation, sans avoir de chute. C'est ce que nous souhaitons. Et ce temps de l'Avent a cette grâce particulière. Et c'est la raison pour laquelle le Christ nous dit qu'il va venir. Et il nous prévient. Et il nous demande de nous préparer à sa seconde venue. J'oserais vous dire quelque chose qui est pourtant de l'ordre de la révélation privée en partie. De 1945 à 1959, la Vierge Marie a parlé à une sainte femme morte en odeur de sainteté, mais non pas béatifiée, qui s'appelait Ida. I-D-A. Elle était néerlandaise et la Vierge Marie lui a parlé de nombreuses fois, une cinquantaine de fois, de 45 à 59. Elle s'est présentée sous le vocable de la Dame de tous les peuples. Mais si je vous en parle, c'est qu'en effet, paisiblement, nous avons une bénédiction de l'évêque du lieu. Cette bénédiction de l'évêque du lieu a été le 31 mai 2002. La Vierge Marie demandait d'ailleurs le dogme de la co-rédemption, c'est-à-dire qu'elle souhaitait, au nom de son fils, qu'elle puisse être placée comme une mère, comme une femme, dans le plan du salut, avec sa douceur créée par Dieu, comme le cou du corps de l'Église, Jésus en étant la tête, et la Vierge Marie, la servante, fait passer les grâces de son Fils jusqu'à tout le corps, comme le cou, disait saint Bernard. Mais voilà que quelques années plus tard, dans un petit institut féminin d'adoration de Jésus-Hostie, au Japon, à Akita, la mère supérieure de ce tout petit institut créé depuis pas très longtemps est tombée gravement malade. Avec piété, on lui a donné de l'eau de Lourdes, elle l'a bu, elle a guéri. Souhaitant faire un ex voto, c'est-à-dire un objet qui manifeste son action de grâce, son remerciement, elle a voulu faire sculpter pour la chapelle une belle image de la Vierge Marie qui manquait encore. On lui a présenté plusieurs images. Parmi ces images, il y avait la Dame de tous les peuples, telle que vue par Ida, c'est-à-dire la Vierge Marie, comme à la rue du Bac à Paris, les mains étendues, mais les pieds posés sur la terre, avec derrière elle une très grande croix. Elle l'a fait sculpter et mis dans la chapelle. Lors d'une sortie de communauté, une sœur qui était handicapée n'a pas suivi ses consœurs et elle est restée à la chapelle. Elle était sourde. Dans un premier temps, elle avait été avertie par un ange. Un ange qui s'était présenté à elle d'une manière assez adulte. Elle pensait même que c'était sa sœur défunte qui lui apparaissait, mais c'était un ange. Ensuite, la Vierge Marie lui parlera et la statue va pleurer 101 fois de 1973 à 1980-81. À nouveau, l'évêque du lieu a donné sa bénédiction et sa reconnaissance. Voilà ce que la Vierge Marie, le 13 mai 1973, 13 mai 1917, Fatima, le 13 octobre, miracle du soleil, voilà ce que la Vierge Marie a dit à cette sainte femme. Et là, c'est recouvert par la bénédiction de l'évêque de Lyon. Si vous ne vous convertissez pas, il y aura un châtiment tel qu'il n'y aura pas eu depuis le déluge. Par le feu, une grande partie de l'humanité va périr, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles, de telle manière que les vivants enverront les morts. Les églises et les autels seront saccagés, les prêtres qui me sont dévots seront moqués, et les cardinaux et les évêques se dresseront les uns contre les autres. Voilà ce que la Vierge Marie disait à Akita le 13 octobre 1973. Et en sortant un peu de mon rôle, je vous dirais que, mais d'une manière assez certaine, à 90%, une personne qui connaît cette religieuse japonaise qui est toujours vivante, qui a près de 85 ans, et qui en a parlé à une personne qui m'a parlé, et c'est sur Internet, je ne veux pas vous inquiéter, mais on est le premier dimanche de l'Avent, il faut que je vous pique un peu comme Saint Jean-Baptiste bientôt. Cet ange qui lui est apparu en 73 lui serait réapparu. Et voilà ce qu'il lui a dit. Couvrez-vous de cendres. Priez le chapelet. Et vous, devenez un petit enfant et offrez-vous en sacrifice. Ce sont des messages toujours très simples quand ils viennent de Dieu. Eh bien, que nous puissions nous-mêmes être sensible aux prophéties. Le Christ, aujourd'hui, nous donne la vision de la chute de Jérusalem en l'an 70 avec les armées de Titus et de Vespasien. Mais cela signifie surtout l'apostasie terminale où le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi. Nous-mêmes, pendant ce temps de l'Avent, essayons de nous concentrer. Nous avons essayé de prier le chapelet tous les jours au mois d'octobre. Continuons au mois de novembre pour les âmes du purgatoire et continuons pour la Vierge Marie et Saint Joseph, l'ombre de l'Avent, pendant ce mois de décembre. Que nous puissions être des témoins de l'amour de Dieu et de l'incarnation auprès de tous les autres croyants, de toute leur culture, de toute leur tradition, auxquelles il manque cette preuve de l'amour de Dieu. l'incarnation. Dieu est un Père qui nous a donné son Verbe, sa pensée éternelle, exprimée, sa parole, son Fils, et qui s'est uni à notre nature, dans un amour éternel, l'Esprit Saint. Et la Vierge Marie est la servante de cette bonne nouvelle que nous devons conserver et faire fructifier pendant ce temps de l'Avent jusqu'à la nuit de Noël, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.